Et à la une de la science, Axel Villard, la longue bataille scientifique autour de Pluton se poursuit.
Oui, l'histoire commence en janvier 1930. L'américain Klein Tombaugh regarde ses plaques photographiques à la recherche d'objets transneptuniens. Il remarque un point qui bouge. Trois mois plus tard, la découverte d'une neuvième planète dans le système solaire est officielle. La belle Pluton vivra jusqu'en 2006.
Et alors, qu'est-ce qui se passe justement en ce moment-là?
Mais il se passe ça.
Petite révolution, l'Union Astronomique Internationale, réunie en ce moment même à Prague, vient doter son statut de planète à Pluton. Ce soir, il n'y a donc plus 9 planètes dans le système solaire, mais 8.
Catastrophe. Pluton devient une planète naine, principalement parce qu'elle partage son orbite avec des astéroïdes. Depuis, certains chercheurs tentent régulièrement de la faire réintégrer le club très sélect des planètes. Et c'est le travail de plusieurs Américains publié cette semaine. On le commente avec vous, Olivier Mouzis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Provence. Vous êtes professeur d'astrophysique à l'université d'Aix-Marseille, chercheur au LAM. Alors, est-ce que cette nouvelle tentative américaine pour sauver le soldat Pluton a des chances d'aboutir, selon vous?
En fait, j'ai regardé l'étude et il n'y a aucun fondement scientifique. C'est encore... Là, il n'y a pas de nouveaux faits dynamiques ou physiques relatifs à Pluton. Il s'agit d'une étude qui regarde plutôt les faits passés dans les 200 dernières années où certains corps ont eu des qualificatifs de planètes et qui ont été ensuite corrigés au fil du temps, comme par exemple certaines lunes de Jupiter qui ont été, lorsqu'elles ont été découvertes, on les a qualifiées de planètes. Après, elles ont été rebaptisées. Mais si vous voulez, il n'y a aucun fondement scientifique. La définition d'une planète naine est stricte et ferme. Et Pluton rentre dans cette catégorie. Pluton n'est pas une planète.
Ah oui, vous êtes sévère quand même. Dans cette publication, il n'y a pas de science, quoi, carrément.
Non, c'est de l'histoire des sciences, on va dire. C'est une publication qui est intéressante puisqu'on voit comment on voit l'évolution de la connaissance. C'est-à-dire au départ, les lunes qui avaient été découvertes autour d'autres planètes étaient qualifiées de planètes parce que les lunes, ça voulait peut-être pas dire grand-chose à cette époque-là. Aujourd'hui, pour nous, ça veut dire quelque chose de très simple, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas.
Alors, si on veut comprendre un peu, il faut rentrer un peu dans les définitions. Aujourd'hui, depuis 2006, c'est quoi une planète?
Bon, écoutez, une planète, il y a quelques critères qui sont fondamentaux. Alors tout d'abord, le premier critère que personne n'objectera, il s'agit d'un corps qui est en orbite autour du Soleil, ou d'une étoile éventuellement. Et ensuite, il faut que le corps en lui-même ait une masse suffisante pour qu'il puisse avoir une forme sphérique. Parce qu'en fait, si vous voulez, à partir d'une certaine taille, une certaine masse, la gravité fait en sorte que ça maintienne la cohésion de la matière et donc le corps est sphérique. Ça, c'est le deuxième critère. Ça s'applique à la fois aux planètes comme la Terre, Jupiter, et même des planètes naines comme les Plutons. Ensuite, attention, la différence entre une planète normale, entre guillemets, comme la Terre et Pluton, c'est ceci. Une planète dite standard, un troisième critère qui est, cette planète a éliminé tout corps susceptible de se déplacer au voisinage de son orbite. C'est le cas de la Terre, c'est le cas de Mars, c'est le cas de Jupiter. Ce n'est pas le cas de Pluton. Pluton a subi par exemple les aléas gravitationnels, les effets liés à Neptune, qui est la planète la plus lointaine. Pluton n'a pas non plus balayé son voisinage orbital, puisqu'il existe encore plein de corps de taille analogue, voire plus grande, on n'a pas fini de les découvrir, qui sont complètement identiques à Pluton. Donc vous voyez, Pluton ne rentre pas dans cette dernière catégorie. Par contre, une planète naine comme Pluton ne peut pas être un satellite. Ça, c'est le critère aussi pour les planètes naines.
Oui, c'est ça. C'est le critère qui bloque, c'est d'avoir fait le ménage autour de soi. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi en 2006 pour définir les planètes, ce critère, alors?
Eh bien, en fait, c'est historique, c'est toujours pareil. Comme vous disiez tout à l'heure, Pluton, c'était le premier corps de la ceinture de Kuiper qui a été découvert dans les années 30. À la fin des années 90, on a commencé à en découvrir d'autres et on s'est aperçu que nombreux corps avaient des tailles analogues et étaient situés dans le voisinage de Pluton, voire plus loin dans le système solaire. On s'est rendu compte que Pluton n'était pas unique. Il y avait toute une population d'objets voisins de Pluton qui ne se voyaient pas mutuellement gravitationnellement et qui étaient au moins de la même taille. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des corps qui sont au moins aussi gros que Pluton.
Alors, Olivier Mouzis, si l'Union Astronomique Internationale s'avère sympa et abandonne ce critère pour prendre celui que proposent ses chercheurs, c'est-à-dire la forme sphérique et le mode de formation, combien d'autres corps pourraient rentrer, j'ai envie de dire, dans le club des planètes?
Alors, attendez. Alors, si, je veux dire, si on suit la proposition qui a été faite dans l'article qui est sorti récemment...
Si on rêve un peu...
Si on rêve un peu, non, c'est même pas du rêve. C'est de la physique. Bon, par exemple, il y a un corps qui est illustre dans la ceinture d'astéroïdes qui s'appelle Cérès, qui est un corps qui est extrêmement intéressant parce qu'il pourrait y avoir un océan interne qui fait 1000 km de taille. Il est sphérique. C'est un des plus gros astéroïdes. Et celui-ci pourrait avoir le qualificatif également de planète. Mais ça n'a aucun sens.
Mais parmi ces chercheurs, quand même, il y en a deux, trois qui sont plutôt reconnus. Alan Stern qui a dirigé une mission vers Pluton. Pourquoi est-ce que ces chercheurs s'acharnent dans ce combat sans fondement, selon vous?
Bon, je me dis que moi-même, si j'avais été porteur d'un projet comme la mission New Horizons, j'aurais peut-être envie que Pluton soit une planète majeure. Donc je mets à sa place.
Ouais, c'est un peu la loose, la planète naine, quand
c'est
même.
C'est une question d'envie, alors. Ouais.
Disons que je comprends, il y a un petit côté, imaginons que la planète Pluton avait été découverte par des Français. Bon, en l'occurrence, là, c'est un Américain. Je pense que, bon, les Français seraient en train d'essayer de ferrailler pour que Pluton passe au statut de planète. Je veux dire, c'est de bon enfant. Mais bon, les lois de la dynamique sont là. Je pense que la définition d'une planète est suffisamment claire aujourd'hui. Il n'y a pas d'ambiguïté.
Donc ça se résume à ça. Pluton est une découverte américaine, donc les Américains se battent pour que Pluton reste une planète.
Non, c'est même pas au-delà de ça. C'est une question humaine. C'est pas une question d'être américain ou pas ou français. On est dans les sentiments. On est parce que c'est un objet qui a été découvert par des gens qu'on aimait bien, etc. Donc voilà, c'est humain. C'est tout à fait normal. Enfin,
mais
ça me choque pas.
Au-delà de ça, Olivier Mouzis, il y a une possibilité au moins que ce soit renégocié ou pas du tout. C'est perdu d'avance. La reclassification.
Écoutez, l'UAI, c'est une instance qui est indépendante, qui est internationale. Donc, je veux dire, est-ce qu'un pays pourrait faire bouger les choses? J'en doute. Je pense que les définitions sont claires. Vous savez, Pluton n'est pas forcément une planète, est une planète naine, comme vient de le dire, mais c'est un objet qui est super intéressant. Je vois même pas, je vois même pas l'intérêt de lui accorder le titre de planète. Ça va pas enlever de l'intérêt qu'on a pour cet objet. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes.
Merci beaucoup pour vos explications claires, Olivier Mouzis. Et puis Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des os d'oiseaux géants qui permettent de réécrire l'histoire de Madagascar. Jusqu'à maintenant, les premières traces attestées de l'homme sur la grande île dataient d'il y a environ 3000 ans. Et l'étude de marques de découpe sur des os d'oiseaux éléphants repousse l'arrivée de nos ancêtres 6000 ans en arrière, rien que ça. L'île est connue pour avoir abrité une faune de très grande taille par le passé. Des lémuriens géants, des tortues géantes et autres hippopotames qui auraient donc cohabité avec des hommes pendant plus de 8000 ans. Une surprise, car partout ailleurs dans le monde, l'homme a fait disparaître rapidement les grands animaux lorsqu'il arrivait sur leur territoire. Des centaines de milliers de bactéries électriques dans le ventre. On pensait les bactéries productrices d'électricité recluses au fond des mines ou des lacs, mais on découvre aussi qu'il en existe dans nos intestins. Des chercheurs de Berkeley viennent de découvrir que certaines espèces de bactéries très communes de notre microbiote sont électrogéniques. Elles utilisent de faibles courants électriques pour la même raison que nous-mêmes respirons, pour retirer des électrons des molécules afin de s'en servir comme source d'énergie. L'étude de ces bactéries pourrait permettre d'envisager d'autres modes de production ou de stockage électrique inspiré de ce qui se passe donc dans notre ventre. Et puis le fond des océans, une véritable boîte de nuit, de meilleures caméras et l'abandon de l'éclairage systématique permettent aujourd'hui aux sous-marins de découvrir la véritable nature de quasiment tous les animaux qui y vivent, ces derniers émettant de la lumière sous forme de bioluminescence. Une mission japonaise révèle cette semaine des vers qui clignotent de rose et de bleu, des méduses aux mille couleurs et même des poissons qui éblouissent leur proie à l'aide de flashs bleus. Les chercheurs pensent que la production de lumière est une capacité primordiale chez tous ces animaux pour chasser, se reproduire, se défendre ou même communiquer.